Bon, alors moi je vais vous parler d'une convergence qui peut sembler a priori un peu étrange, c'est-à-dire la convergence entre le néolibéralisme comme projet économique mais aussi politique et social et le néoconservatisme qui peut paraître un peu en porte-à-faux par rapport à ce néoconservatisme, dans la mesure où le néoconservatisme a un agenda un peu travail, famille, patrie, mais justement sur ces thèmes-là, vous pouvez reconnaître à la fois des néolibéraux et des néoconservateurs. Alors, et je vais en parler dans leur convergence sur un agenda antiféministe. Alors, c'est évident que, il me semble que c'est important d'en parler parce qu'au point de départ, on peut regarder les années Reagan aux États-Unis et dire que c'était une idiosyncrasie états-unienne, cette espèce de convergence entre le travail, famille, patrie, puis le néolibéralisme comme désengagement de l'État et laissez-faire économique, si on veut. Mais dans les 10 dernières années, on a pu voir des phénomènes assez semblables au Canada, en France, en Espagne, en Pologne et probablement dans d'autres pays que je connais moins. Donc, je trouve que ça fait un peu trop de coïncidences et qu'il faut s'interroger un peu sur le phénomène. Alors, c'est d'une certaine façon, l'agenda antiféministe du libéralisme peut sembler plus paradoxal que l'agenda antiféministe du conservatisme, puisque le libéralisme est quand même connu pour sa défense du primat de l'individu et la libre disposition de sa personne, la défense des libertés individuelles, la défense de la propriété. Donc, on aurait pu penser que ce libéralisme-là favoriserait l'individuation des femmes. Mais le paradoxe s'estompe assez rapidement si on prend en considération un axe privé-public et le mouvement de privatisation du monde et de l'existence qui est important dans ce néolibéralisme. Et d'une certaine façon, ça permet de saisir une des contradictions profondes du libéralisme qui peut promouvoir la figure de l'individu intéressé uniquement en autant que d'autres restent non individués et soumis à la domination, car autrement, le lien social s'estomperait et on sombrerait assez rapidement dans le schéma de la guerre contre chacun et contre tous, entre chacun et entre tous, qu'avait bien identifié Hobbes. Ce mouvement de privatisation, évidemment, on peut en prendre la mesure avec l'idée de repli de l'État vers ses missions dites fondamentales, en préconisant une cure minceur dans les budgets éducatifs et sociaux de l'État, mais en ne voyant rien de mal à l'obésité des budgets alloués aux prisons et à l'armée, sous prétexte de ne pas tuer l'esprit d'entreprise avec de trop forts taux d'imposition des contribuables. On l'a encore entendu récemment dans un discours du budget. Le néolibéralisme s'attaque aux droits des femmes à trois titres. À titre de travailleurs, de travailleuses dans les secteurs éducatifs, sanitaires et sociaux, désormais soumis au dénigrement, à la précarisation et à la flexibilisation, à titre de bénéficiaires de ces services et à titre de substituts aux services étatiques quand ceux-ci sont ramenés au réseau des aidantes dits naturelles, qui sont fort majoritairement des aidantes, que ce soit sous la forme des liens familiaux, les femmes, les filles, les sœurs, les mères, ou sous celle de l'économie solidaire qui emploie massivement des femmes dans ce type de boulot. Il y a également un phénomène de disqualification du féminisme comme mouvement social si on adopte une vision un peu écuménique, même si je partage l'espèce de polarisation qu'indique Chantal en ce qui concerne le féminisme. Même en adoptant une définition un peu écuménique du féminisme comme mouvement collectif visant à contrer les diverses manifestations de discrimination systémique à l'encontre des femmes, on voit que ça tombe sous le coup du néolibéralisme. On n'a qu'à se rappeler la fameuse maxime de Margaret Thatcher, « There is no such thing as society », pour saisir qu'à partir du moment où on nie l'existence de rapports sociaux, les injustices sociales sont gommées au profit d'une appréhension purement quantitative et anecdotique des différences entre les sexes. On a pu en voir les conséquences dans l'agenda onusien post-Beijing 95, alors que les organismes de défense des droits des femmes se sont transformés en bureaux de l'égalité sous prétexte de mainstreaming. Dans de telles circonstances, le féminisme perd sa raison d'être puisqu'il n'y a plus de rapports sociaux à combattre, simplement des différences individuelles à corriger, et on entre dans l'ère du post-féminisme. Plus importante encore, une telle négation du social rend extrêmement difficile de politiser certains aspects de la vie privée, comme l'a fait le féminisme depuis ses débuts. Le renvoi au privé et à la nature rend difficile de montrer que les rôles sociaux ne relèvent pas de la nature, mais de l'organisation sociale. Historiquement, la dénaturalisation d'enjeux comme l'avortement, la violence conjugale, le travail domestique, la sexualité a permis de transformer ce qui se présentait sous l'aspect de cas individuels en symptômes sociaux et a justifié le féminisme comme mouvement social. Dans un contexte où on postule la disparition du social et des rapports sociaux, c'est beaucoup plus ardu. Alors, je vais aborder deux choses. D'abord, l'invocation des vraies valeurs familiales par la droite conservatrice canadienne, et ensuite, comment se conjugue conservatisme, nationalisme et familialisme dans le contexte québécois. Il me semble que ce qui a changé dans le paysage politique canadien depuis l'arrivée des conservateurs au gouvernement en 2006, c'est la place occupée par l'égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques publiques, la remise en cause de la légitimité des groupes féministes, et le rôle joué par les organismes familiaux hétérosexistes, avec, en bout de ligne, des menaces constantes sur la liberté d'avortement. Si le gouvernement conservateur ne s'oppose pas frontalement à l'égalité entre les femmes et les hommes, il refuse par contre que les fonds publics servent à financer les organismes de défense des droits, ce qui affecte effectivement l'activité des groupes féministes, et plusieurs ont dû fermer suite à la réorientation des politiques gouvernementales. Et certains ont vu leurs subventions gouvernementales se réduire. Et il faut rappeler que la nouvelle mission de Conditions féminines Canada est désormais de faciliter, je cite, la participation des femmes à la société canadienne, alors qu'auparavant, c'était de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, ce qui n'est pas exactement la même chose. La remise en cause de la légitimité des groupes féministes prend plusieurs formes, dont les deux plus importantes sont les suivantes. L'assimilation des féministes à des dinosaures politiques et la mise sur un pied d'égalité des groupes féministes et des associations féminines, souvent liées à des intégristes religieux ou encore des groupes de défense de la famille hétérosexuelle, qui peuvent tous se qualifier désormais aux subventions de Conditions féminines Canada. Ainsi, le féminisme est envoyé au statut de dinosaure politique, au moins dans les pays occidentaux. On estime que les transformations législatives des 40 dernières années ont permis aux femmes d'atteindre l'égalité, et celles qui n'y sont pas parvenues n'ont qu'à s'en prendre à leur comportement défaillant ou déviant pour expliquer leurs insuccès. C'est grosso modo le discours du post-féminisme. Quant à celles qui persistent à se dire féministes, qui évoquent les inégalités de genre, où elles vivent dans un autre siècle et demandent à l'État des choses qui ne sont pas de son ressort. Puis encore, elles essaient d'établir des privilèges corporatistes qui briment la liberté des individus, y compris les individus féminins. Bref, on vivrait à une époque post-féministe où les inégalités ne seraient que résiduelles et appelées à disparaître d'elles-mêmes avec le travail du temps, puisque les jeunes générations seraient nées dans un monde égalitaire. Ce qui fait aussi que nos gouvernements peuvent se gargariser de l'égalité entre les femmes et les hommes comme valeur fondamentale. Aussi, le gouvernement influe sur leurs activités en refusant de subventionner toute activité de défense des droits, les transformant en dispensateurs de services, ce qui s'inscrit dans la logique gouvernementale de sous-traitance des programmes sociaux communautaires et de privatisation partielle des services sous le vocable de PPP. Deuxième chose, c'est qu'on met sur le même pied des groupes à orientation féministe et des groupes comme Real Women, qui sont présentés comme des groupes de femmes équivalents, alors que leur agenda politique est diamétralement opposé. Certains de ces groupes sont liés à des courants religieux intégristes, qui sont loin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Enfin, les enjeux féministes sont ramenés à la famille, comme si le féminisme n'était qu'un mouvement sectoriel se préoccupant des enjeux domestiques. Et dans ce domaine, les organismes familiaux hétérosexistes comme Focus on the Family peuplent les cabinets ministériels et peuvent d'ores et déjà revendiquer plusieurs victoires à leur actif. Abandon du programme national des garderies, loi sur les jeunes contrevenants. Par ailleurs, ils sont également actifs pour tenter d'exclure du mariage les conjoints de même sexe. Quant aux femmes prises sur le plan individuel, leur autonomie chèrement acquise par les luttes et non pas par l'évolution naturelle de l'histoire ou la modernisation de la société, il faut le dire, hein, parce qu'on oublie toujours que ça a été des sujets de lutte. L'égalité entre les hommes et les femmes est arrivée comme ça, comme valeur fondamentale qu'on a soudainement découverte. L'autonomie que les femmes ont acquise au prix de luttes souvent dures est remise en question par la révision à la baisse des prestations sociales, par les transformations sur le marché de l'emploi, par la diminution de la prise en charge des jeunes, des malades et des personnes âgées par l'État, et par la remise en question des libertés reproductives. Dans le contexte québécois, on a aussi un phénomène assez similaire. Qui rappelle certains traits du catholicisme des années de la Révolution tranquille ou du discours politique des années d'avant la Révolution tranquille et qui semble contraster d'une certaine façon avec l'idée que le Québec serait à l'avant-garde du monde occidental en ce qui concerne les droits des femmes, des gays, des lesbiennes, etc. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est quand même une espèce de retour du refoulé. Et justement, ça nous montre que le fait que, au moins dans le discours, l'égalité entre les femmes et les hommes fasse partie des valeurs fondamentales de la société québécoise, ça a été au prix de lutte et que il y aurait comme une revanche là-dedans. Je dirais que ce qui est un peu contradictoire dans ce qui se passe au Québec, c'est que ce discours n'est pas porté principalement par les églises, à tout le moins la plus importante d'entre elles, quoique avec le cardinal Ouellette les interventions des groupes religieux catholiques à Bouchard-Taylor, on a vu une certaine radicalisation antiféministe du discours de l'Église catholique. Il va plutôt puiser au vieux fonds nationaliste canadien-français. Il est souvent instrumentalisé à des fins racistes, sexistes et homophobes. On y retrouve également une certaine sympathie pour le masculinisme et une défense de la famille traditionnelle, c'est-à-dire papa pourvoyeur, maman à la maison et enfant, évidemment, du même couple. Il me semble que là-dedans, un des phénomènes très inquiétants, c'est l'instrumentalisation raciste de l'égalité entre les femmes et les hommes pour stigmatiser les communautés musulmanes, comme si c'était les seules qui pratiquaient la discrimination à l'encontre des femmes. Ça me semble s'inscrire tout à fait dans l'agenda raciste néoconservateur de l'après 11 septembre, alors que le choc des civilisations a remplacé l'anticommunisme. Il me semble que la campagne électorale de 2007 au Québec, celle qui a vu la grande montée de l'ADQ, ça lui a permis de se présenter comme le défenseur des valeurs familiales, à la fois par le biais, par exemple, de la revendication du remboursement des nouvelles technologies, du recours aux nouvelles technologies de reproduction humaine par la régie de l'assurance maladie, mais surtout par le libre choix des parents en matière de services de garde, c'est-à-dire par toute une critique assez systématique des CPE. En filigrane de ce discours sur les valeurs familiales, on retrouve également une dénonciation du matriarcat québécois qui serait responsable d'un ensemble de fléaux sociaux, dont la remise en cause de la famille traditionnelle. De plus, ce matriarcat serait l'indicateur de la place trop grande occupée par le féminisme au Québec. Et dans ce sens-là, il faut aussi mettre dans ce discours « Travail, famille, patrie », les tentatives de réhabilitation du catholicisme dans l'histoire du Québec et l'évolution de certaines franges nationalistes vers une vision moins politique et beaucoup plus culturaliste de la nation, qui mise sur le vieux fonds canadien-français, faisant une large part au catholicisme. On en a amplement discuté dans les séances précédentes. Et si Hérouville peut apparaître comme folklorique et le maire de Saguenay comme pittoresque, il ne faut pas oublier les attaques au cours éthique et culture religieuse lors de la commission Bouchard-Taylor et le travail de reprise en main de l'Église catholique par Mgr Ouellette, ce qui lui a d'ailleurs valu une promotion dans la hiérarchie catholique. Ce discours a aussi, dans le discours catholique, il y a une tournure très, dans ce discours de famille, il y a une tournure très hétérosexiste, mais il y a également une facette antiféministe avec son insistance sur la complémentarité des rôles de sexe et la nécessaire différenciation du féminin et du masculin. sans parler du discours sur les mères au foyer qui laisse entendre que les jeunes enfants se portent mieux lorsque les mères sont à la maison, discours que l'on retrouve sous toute forme de déclinaison, aliments préparés et obésité, cocooning, valorisation la maternité. Il n'y a certes pas de tea party pour l'instant au Québec ou de valorisation des hockey moms, mais c'est à peu près, d'une certaine façon, il y a d'autres, ça prend d'autres formes, mais c'est du même ordre. Et je pense que tout ça, ça change le contexte dans lequel se déroulent les luttes féministes. Certes, depuis les années 70, nous avons dû lutter de pied ferme pour obtenir les transformations législatives et l'inflexion des politiques publiques, mais dans un contexte où nos luttes trouvaient un certain écho au sein de l'appareil institutionnel. C'est de moins en moins le cas et nous nous battons contre le courant, ce qui nous met dans la posture politique ambiguë de devoir défendre nos acquis. Et ça rend d'autant plus urgent de développer une solidarité politique entre les femmes dans une même société, mais aussi à travers les frontières. Il ne s'agit pas de postuler que les situations vécues par toutes les femmes peuvent se réduire à un dénominateur commun qui induirait une sorte de sororité automatique. Il faut plutôt tenir compte des différences entre les femmes, les travailler politiquement pour parvenir à une solidarité réfléchie qui nous permette d'agir ensemble. Ça implique également que, comme féministes, on s'implique dans les luttes contre les guerres impériales, le néolibéralisme et le néoconservatisme. Ces luttes sont les nôtres, non pas parce qu'il y aurait une espèce d'anticapitalisme général qui fédérerait toutes les luttes sociales, mais parce que le militarisme nourrit la violence contre les femmes, et pas seulement dans les zones de guerre, parce que le néoconservatisme vise à nous enfermer dans l'univers privé de la famille, et parce que le néolibéralisme dépolitise les rapports sociaux au nom de la gouvernance. Ce qui implique le développement d'une politique féministe qui ne soit pas que pour les femmes, même si je pense aussi qu'on doit maintenir des lieux de non-mixité sexuée, qui ne questionne pas que les enjeux dits féminins, mais qui interroge l'ensemble des rapports sociaux d'injustice, de domination et d'exclusion. Et c'est ainsi qu'on pourra maintenir vivant un féminisme de rébellion sociale. Merci.